Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est bon, je suis prêt.
Par contre, tu me fais pas attaquer en premier, parce que je le mange.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, vous le savez, regarde avec toujours un peu de circonspection les emballements critiques, les films vendus comme incontournables, les nouveautés qu'il faut avoir aimé, quitte à passer pour le club des grincheux de service, on le sait bien, mais que voulez-vous, on ne se refait pas, on va donc une nouvelle fois faire honneur à notre réputation de gros relou en disant assez peu de bien de Ghost Story, le petit événement critique de cette fin d'année qu'on va aborder avec le trio de cinéphiles bien vivants réunis ici à l'antenne Paris. Yannick Daran, salut Yannick.
Salut.
David Honora, salut David.
Oui.
Et d'accord. Et Alexandre Ravo, salut Alex.
Bonsoir.
Bonsoir. Cinociné épisode 113 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
The Ghost Story, donc, de David Lowery, cinéaste cool estampillé Sundance, qui a quand même commis le remake live-action de Peter Elliott le Dragon, sachez-le. The Ghost Story, donc, c'est l'histoire d'un homme, Casey Affleck, qui décède dans un accident de voiture et revient sous forme de fantôme dans sa maison, où vit sa veuve éplorée, jouée par Rooney Mara. Rien de bien original, me direz-vous, mais si, car le mec, le fantôme, il est recouvert d'un drap blanc, comme un gamin de 3 ans déguisé en fantôme. Gros, gros concept. Je résiste pas à la tentation de vous lire la conclusion du résumé du film sur Allociné, histoire de vous montrer un peu où on met la barre. Je cite donc: condamné à ne plus être qu'un simple spectateur de la vie qui fut la sienne avec la femme qu'il aime et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire en proie aux ineffables questionnements de l'existence et à son incommensurabilité. Bam! Dans ta gueule!
A writer writes a novel. A songwriter writes a song. We do what we can to endure.
Et la critique donc se touche très 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 fort sur ce film. On nous parle de merveilles, de chefs-d'œuvre. C'est aussi sans doute dû au fait que le film a remporté 3 prix à Deauville, dont celui du jury. Parlons peu, parlons bien. Votre avis sur le film, messieurs? J'attends que Yannick finisse son assiette de fromage. On va Merci. Commencer donc par David. David, à toi.
Non, bon, on est clairement dans l'incommensurabilité.
Ah bah oui, je trouve que c'est un terme qui s'est prêté assez bien. Ouais.
Non, bah pour commencer, je vais quand même. Enfin, moi, il y a 2-3 choses que j'aime bien dans le film. Pour planter un peu le décor, alors au-delà de l'aspect donc lofi du fantôme drap blanc, le film fait le choix de fait un choix de cadre qui est un cadre carré, bon, avec les bords arrondis, c'est une sorte de petit truc de dandy qui a assez peu d'intérêt dans le film, mais il y a une assez belle photo, des couleurs, des ambiances qui sont plutôt pas mal. Il y a quelques trucs de mise en scène que je trouve chouettes, notamment il y a un moment, une scène avec un travelling avant vers Rooney Mara qui sort 3 fois de la maison et c'est raccord dans le mouvement sans qu'il y ait de coupe, donc il y a un petit trucage numérique sans doute qui est assez chouette, mais qui est derrière sous-exploité, c'est-à-dire que plusieurs fois le film va faire des ellipses comme ça très rapides et presque pas indiquées par le montage qui permettent de dérouler l'histoire mais apporte pas grand chose. Moi, je suis à fond pour le fantastique Lofi. En tant que fan de Shyamalan, les histoires de fantômes un peu Lofi, je suis hyper partant. Mais faudrait quand même voir à pas se foutre de la gueule du monde.
Le seul twist, c'est que c'est de la merde. Voilà.
Et ce qui est quand même bien quand on raconte une histoire comme ça, c'est de décrire un minimum les personnages. Donc là le film littéralement. Plutôt que d'ailleurs de remplacer Casey Affleck, il pourrait être remplacé par Christopher Plummer, hein, parce que lui aussi, il a ses casseroles. Ouais. Donc là, plutôt que faire ça, on lui met un drap blanc sur la gueule. Et du coup, les personnages sont pas du
J'aurais préféré Christopher Plummer, je pense, le film.
Mais enfin, bref, ça aurait apporté un truc en plus.
Un peu plus marrant.
Les personnages sont absolument pas écrits. C'est-à-dire qu'il y a une exposition qui sert uniquement à préparer une sorte de pseudo-twist tout pourri qu'on voit venir à des années-lumière à l'avance. Enfin non, parce que les années-lumière, c'est pas une indication de temps, mais bref.
Toute cette culture, David Honora.
Et du coup, le film se perd et d'une certaine manière est presque trop content de son récit, de sa structure. Moi, ça m'a rappelé Premier Contact, qui est de Niveau 9, qui était déjà un peu dans cette démarche, qui avait une structure d'ailleurs très similaire, qui avait pour lui de créer quelque chose visuellement dans un rapport justement d'ailleurs pas si lofi à la science-fiction, mais que je trouvais intéressant. Il y avait un univers, il y avait des acteurs qui étaient à mon avis mieux dirigés. Là, on est, j'ai l'impression, dans quelque chose de très vide, de très poseur. Il y a une scène, je suis sûr, dont Alex va parler avec plaisir, d'une scène de dégustation de tarte qui dure 15 minutes, quoi, j'ai l'impression.
Ouais. En fait, c'est que 4.
En
ressenti, c'est 20 minutes. Ouais, voilà.
C'est ça. Et en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où le manque d'écriture des personnages est prétexte à faire de très 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 longues séquences vides. On n'apprend rien sur les personnages, sur leur rapport entre eux. L'histoire d'amour est, à mon sens, factice. Il y a un MacGuffin qui fait avancer le film, qui est que le fantôme veut essayer de récupérer un petit bout de papier coincé dans l'embrasure d'un mur. Et à tout ça, je n'arrive pas à croire parce que il y a rien de planté, il y a rien de vivant.
Non mais il y a rien de concret. Il y a rien de vivant, c'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire. Ouais, c'est
mais ça. Non, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire David sur ces personnages inexistants. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire un extrait du dossier de presse français qui est donc fait par le distributeur, fait pour vendre le film. Hein, on est d'accord, c'est quand même quelque chose qui est assez dithyrambique sur le film. Et donc, il part à un moment de l'obsession, les obsessions du cinéaste. Et donc, voilà ce qu'on peut lire sur David Lowry. Ben Foster, un des comédiens des Amants du Texas, un de ses précédents films, sorti en 2013, confiait d'ailleurs lors d'une interview que le réalisateur était plus obsédé par l'embrasure d'une porte que par le comédien qui s'y tenait. Ce que David Lowry ne dément pas. Il en profite pour ajouter... Et ouvrez les guillemets, c'est une citation, je pourrais rester des heures à contempler une entrée vide. Et c'est une déclaration d'intention sur tout le film. C'est une entrée vide, c'est vraiment quelque chose. Moi, quand j'ai découvert le film, pour la petite histoire, parce que c'est important de préciser, sans avoir vu sa bande-annonce, en tout cas pour la version américaine du distributeur A24, spoil tout le film, en tout cas démontre tous les tableaux, même les plus futuristes, les plus délirants. Donc, j'avais pas vu la bande-annonce avant d'avoir le film. Je connaissais même pas le pitch, donc je pensais un peu naïvement que c'était une histoire de maison hantée ou quelque chose plus classique, entre guillemets. Et j'ai découvert le film au PIF, donc le festival du film fantastique parisien, avec cette mise en garde du programmateur du festival juste avant la séance, qui sentait déjà que bon, potentiellement le film n'allait pas faire l'unanimité, et pour prévenir entre guillemets la chose, avait dit aux spectateurs, c'est un film qui va peut-être diviser les fans hardcore de genre, etc., comme l'avait fait en leur temps, et là il cite It Follows et The Witch, que moi personnellement j'aime beaucoup, même si c'est pas des films parfaits, mais qui ont en tout cas été vraiment des vraies propositions de cinéma avec des qualités assez indéniables. Et donc j'ai été à la fin de 1h40 plus tard, ou 3h25 en ressenti, je suis sorti de là, je me dis mais non, ça n'a rien à voir avec The Witch ou It Follows, c'est, si ce n'est la patine cinéma indépendant, etc. C'est juste quelque chose qui est une branlette avec certes des trouvailles visuelles, et notamment dans le montage que j'ai trouvé très bonne par moment, sur les ellipses, la gestion du temps, tu vois, t'as un champ contre champ, t'as 20 ans qui séparent les deux, tu t'en rends compte ou tu t'en rends pas compte, c'est comme tu le veux. Ça m'a rappelé parfois le travail des frères Wachowski, enfin des sœurs Wachowski, pardon, sur Sense8, où il y avait des fois des gestions de champ contre champ dans différents endroits du monde simultanément. Voilà, il y a des, quand même des qualités dans ce film-là indéniables, mais grosso modo, je suis assez abasourdi par ce que tu disais en introduction, l'unanimité ou presque critique, dithyrambique, et j'ai vraiment l'impression d'avoir souffert. Alors, David a parlé de ce plan de Rooney Mara qui déguste sa tarte aux épinards, sans doute, parce que elle est végane, j'ai appris ça encore dans le dossier de presse, tout comme Casey Affleck, le réalisateur, décidément. Et voilà, c'est une souffrance.
C'est une souffrance. Très bien. Alors Yannick, toi, t'es un peu plus...
Bah, moi, je suis plus emmerdé parce que moi, je regarde le truc de manière très pragmatique. Je parlais certes quand même pas mal de la réception du film et je peux comprendre qu'on puisse être agacé par les dithyrambes qu'on fait sur des films ou poseurs ou branlettes. Mais je veux dire, moi, je trouvais ça mille fois moins justifié à la limite sur un It Follows que j'ai trouvé pour le coup personnellement réellement insupportable d'une bêtise absolue et d'une pose mais vraiment prétentieuse qui est et qui caractérise que les choses soient claires au moins les 25 premières minutes de Ghost Story. Mais alors moi j'ai pas de grande théorie sur Ghost Story qui représente, et alors on peut pas me taxer d'aimer ce genre de film, qui représente mais absolument tout ce que je vomis normalement au cinéma. Et je ne sais pas pourquoi j'ai réussi à passer les 25 premières minutes. Enfin, en réalité, si. C'est-à-dire que j'étais tellement halluciné par ce que j'étais en train de voir que je suis allé sur Internet en me disant « c'est pas possible, comment tout le monde peut être dithyrambique justement sur un film qui t'empile ?» De la caricature, mais je parle des 25 premières minutes, de la caricature de Cinoche, Bobo, Poseur, pseudo-intello de mes couilles et tout ce que tu veux, mais avec des fois, en apparence, zéro justification. Bon. Et les mecs disaient, sur Internet, je voyais ça, et les mecs disaient, non, mais il faut que vous soyez patient. Parce qu'une fois l'insupportable scène dont vous parlez de la tarte et que je confirme est insupportable, je défie la majorité du public de ne pas avoir envie de fuir de la salle à ce moment-là, les mecs disent, une fois que ça passe, vous avez un autre film. Oh, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, je vais rester et je vais regarder. Bon. Et effectivement, il y a un truc qui se passe. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui se passe. Oui. Mais qui est que de l'ordre vraiment du ressenti. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous sur les petites qualités que vous mettez en exergue, en particulier un certain travail sur les champs contre champs, sur la composition du cadre, la spatialité, qui des fois est maligne. Mais au-delà de ça, moi, j'ai quand même vite compris, c'est pas une façon, c'est pas comme si tu l'avais pas compris, mais j'ai vite accepté l'idée que ça n'allait pas être un film de personnage, que ça n'allait pas être un film d'immersion dans son contexte, dans son univers, qu'on me mettait immédiatement dans une position d'observateur qui est exactement la même position que ce fantôme un peu ridicule qu'on voit pendant tout le film. Et le ressenti est qu'une fois ces 25 premières minutes que j'ai trouvé insupportables et que je suis rentré dedans, je n'ai pas réussi à arrêter le film. C'est bien qu'il y a quelque chose qui s'est produit, donc j'ai pas le recul encore nécessaire pour... Mais la chose qui me semble évidente, moi, c'est que ce qui est assez fascinant, c'est qu'il va au bout de son concept. Alors effectivement, le twist, comme tu le dis, on le voit venir. Oui. Et on comprend la mécanique. Énorme. Comme on n'a pas besoin d'avoir un mec dans un monologue qui nous fait un monologue nihiliste. Voilà, un monologue nihiliste qui est censé éclairer le sens du film, là où finalement, moi, tu mets Matthew McConaughey dans la première scène de True Detective, et je trouve que c'est juste mille fois plus puissant, et ça n'a pas besoin d'être chiant pour véhiculer la même idée. Sauf qu'au bout d'un moment...
C'est la scène avec Will Oldham, c'est ça, oui.
C'est ça, voilà, ouais, c'est sauf qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe dans notre perception du récit et de sa temporalité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de dire « Oh là là, c'est un grand film métaphysique sur l'éternité ou alors sur l'héritage qu'on laisse et tout ça. » Parce que ça, c'est ce qui est dicté dans le discours. Par contre, il y a une réalité de la perception de cette temporalité-là. Et du coup, quand on rentre là-dedans, des choix qu'on aurait pu croire être complètement abstraits et complètement factices, quoi, fallacieux, j'ai envie de dire, et qui seraient juste de la pose de... Parce que moi, il y a des trucs que j'ai toujours pas compris dans le film, excuse-moi, mais tu vois, la première scène, la caméra qui part du ciel, qui tombe d'un coup comme ça, qui s'enchaîne avec un travelling d'une demi-heure sur une nana qui tire une caisse, à ce moment-là, j'étais là, ok, mec, tu dois avoir un truc à dire, mais là, j'ai vraiment pas capté. Mais malgré tout, après, cette temporalité devient tienne. Alors, ce qui est marrant là-dedans, c'est que quand je dis il va jusqu'au bout de son truc, c'est que ça, tu t'y attends pas. C'est-à-dire qu'il parle de cette temporalité, il va vraiment jusqu'au bout, et ce qui te semblait être désaffaîtri prend tout d'un coup un sens. Alors, le fameux 4 tiers ou 1,37, qui est le format assez particulier du film, qu'on peut considérer comme totalement inutile, au final, quand tu as cette notion de « je suis témoin du temps qui passe notre existence ne signifie rien par rapport à la prégnance du temps et de l'histoire et tout ce que tu as », et puis finalement... Tout ceci est une boucle indéfinie qui recommence. T'as à chaque fois dans un élément la notion de passé, présent, futur. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps? Est-ce qu'il a un sens? Est-ce qu'il est relatif? Est-ce qu'il n'est pas relatif? C'est des questions, certes, que t'es t'es pas obligé de les traiter de cette manière pour les rendre intéressants, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça la limite que j'ai par rapport à ce film là, c'est que il te le fait comme un putain de chemin de croix, c'est-à-dire que ça se mérite de ressentir, c'est sacrificiel presque comme démarche. Et ce bâtard, il le dit d'ailleurs dans son truc quand on lui dit la scène de la tarte là, t'es gentil, mais il dit mais si les gens se barrent, c'est parfait. Donc, alors tu dis ok mec, tu te la racontes, mais en même temps
t'en fous, ils ont payé la place.
Oui, mais en même temps par rapport à cette notion de temps, il y a des trucs intéressants. Donc je peux pas lui enlever le fait que au bout d'un moment, moi je vois tellement peu d'expérience entre guillemets de trip, tu vois. It Follows, on peut considérer que c'est un trip. Moi je considère que c'est un trip vide de sens, mais réellement, et pourtant je l'ai scruté. Celui-là, je l'ai scruté, je le trouve visuellement horrible à plein de niveaux. Je trouve qu'il a plein d'affaîtrie insupportable, mais en même temps, il y a quelque chose qui te pénètre là-dessus. Alors peut-être parce que moi, je suis sensible sur cette réflexion métaphysique, tu vois. Je veux dire, il va pas plus loin, ça va pas plus loin que ce que te dit Hariri dans, tu vois, Homo Sapiens ou dans des bouquins qui sont sortis récemment. Le sens est celui que l'homme crée à son existence fondamentalement. Il s'invente des mythes pour pouvoir se fédérer et exister. Donc il y a tout ça qui est véhiculé là-dedans de manière très arty, poseuse, insupportable. Mais malgré tout, il peut faire son petit effet. Moi, je dis, il ne faut pas le bâcher trop vite, même s'il a énormément d'aspects insupportables. Je ne regarderai pas une deuxième fois, que ce soit clair. Hein. Mais c'est une expérience, quoi. Qu'on le veuille ou pas, c'est une forme d'expérience.
Et effectivement, la scène du monologue est importante et, à mon avis, est pivot pour le spectateur. C'est-à-dire que si...
Mais il n'en avait pas besoin. Tu vois ce que je veux dire.
En fait, pour moi, c'est vraiment le moment où je me dis, allez, c'est bon, il se fout de ma gueule, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un personnage exaspérant, détestable, qui
joué par Bonnie Prince Billing.
Voilà. On ne sait pas trop à quel degré le film se situe par rapport à ce personnage. Mais le problème, c'est que le personnage est une fonction qui permet d'exposer clairement ce que le film va ensuite montrer, faire ressentir par l'image, la mise en scène.
C'est un peu la fratrie gothique du réalisateur.
Effectivement, c'est ça. Et il y a un truc qui pour moi, vraiment me sort du film parce que j'ai l'impression d'avoir vu que des concepts, c'est-à-dire des personnages qui n'existent pas. Et... en plus de ça, on insulte mon intelligence, entre guillemets, en rajoutant un personnage fonction qui va m'expliquer les concepts à venir et le sens de ce qu'il veut me montrer. Par ailleurs, il y a un truc pas totalement anodin, c'est qu'à un moment, pour signifier en gros le reboot du temps et le retour dans le passé, donc on est dans une, on sait pas trop où, aux États-Unis. Et pour revenir au temps des origines, entre guillemets, il nous montre une famille de colons blancs qui viennent s'installer et qui sont massacrés par des Indiens. C'est-à-dire que du point de vue du réalisateur, les origines du temps, c'est l'arrivée des colons blancs aux États-Unis. Je veux dire, il y a quand même un truc qui est hallucinant.
C'est marrant.
Et puis voilà, après...
Mais ce que je veux dire, c'est que tu réconcilieras jamais... pour moi, les gens qui se font entourlouper par It Follows, si tu veux, avec le cinéma qu'on a tendance à défendre. C'est-à-dire que ce que je caricaturerais en disant ceux qui vont trouver du sens à n'importe quel plan contemplatif, et parce que c'est nécessaire, tu comprends le contemplatif à des fins existentialistes. Donc, moi, je peux pas... Tu vois, j'ai arrêté de me battre sur ce type de ces deux formes de cinéma, parce que tu auras toujours des gens qui vont aller poser du pseudo-sens et de la réflexion sur n'importe quoi à partir du moment où c'est un peu éthéré, à partir du moment où ça, où tu vois. Et je te dis, et c'est pour ça que je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que il y a tous les éléments caricaturaux qui pousseraient à un rejet immédiat de ma part. Donc je veux dire, je déteste ce cinéma. Je veux dire, alors, on va pas me mettre dans la position du mec qui va être le défenseur de Ghost Story. Mais la seule chose, un petit peu dans le sens où la seule chose que je réalise, c'est que ça ne se situe pas pour moi ni au niveau du concept de ce que dit le film, ni au niveau du sens qu'il cherche à véhiculer, par exemple à travers ce monologue. Et je suis complètement d'accord avec cette caricature de la scène des colons que je trouve assez monde dans la façon dont ça a été fait. Moi, ce que j'ai trouvé intriguant et sur lequel j'ai pas encore assez réfléchi et qui mériterait à mon avis d'y réfléchir, mais il faut avoir envie de souffrir, c'est sur ce montage, c'est sur la façon dont structurellement, dont en termes de mise en scène, il orchestre cette temporalité à l'image qui, je trouve, tout travaille de l'intérieur. C'est le seul truc que je vais défendre dans le film, c'est que malgré tout, il touche à quelque chose.
Et c'est grâce à ces partis pris, ces montages, cette projection dans le temps avec des plans de futuristes un peu fous que le film passe, même si c'est mon cas, tu peux passer un très mauvais moment devant le film et en garder un souvenir détestable, tu regardes un souvenir, et mine de rien, c'est déjà quelque chose. Parce qu'il y a tellement de films, le tout venant, pas seulement fantastique, mais nous, restons sur le fantastique et le surnaturel. Il y a tellement de films qui reposent sur des figures éculées, voilà, ou des clichés, finalement, qu'ils essayent plus ou moins de subvertir quand ils ont un petit peu d'envie de changer. Mais là, pour le coup, on ne peut pas reprocher à David Lowery, même si certains y verront un côté un petit peu prétentieux. Il avait dans certaines interviews, il parle notamment le fameux petit objet que le personnage de Rooney Mara, le petit bout de papier, glisse dans un coin de mur, et dans son personnage dans le film fait ça à chaque déménagement quand elle était jeune pour laisser une trace derrière elle. Et donc lui, il compare ça au fait que les hommes de tout temps, artistes, laissaient des traces derrière eux via leurs œuvres. Du coup tu comprends bien que lui-même a une certaine opinion de lui-même, où il a envie de laisser des traces derrière lui. Bon, en même temps, chaque artiste, hein, que ce soit musicien, plasticien, n'importe quoi. Mais quoi qu'il arrive, son film-là, et c'est là où je rejoins ce que disait Yannick, c'est qu'effectivement, on peut difficilement le balayer d'un revers de la main sous prétexte qu'il a eu des lauriers dressés de manière un petit peu injustifiée ou exagérée.
Par sa forme même.
Thomas disait en déconnant à moitié film Instagram, et c'est vrai que par son format, le côté filtré, t'as l'impression d'être un film. Mais je pense que c'est un film qui sera, justement par son côté un petit peu intemporel. C'est le cas de le dire, en plus. Par son côté un peu temporel dans sa facture visuelle, je pense que c'est un film qui pourra être vu et revu. Enfin non, pas vu et revu au sens où t'as pas envie de te le taper une deuxième fois, mais qui pourrait être redécouvert dans à peu près les mêmes conditions que maintenant, d'ici 15-20 ans. Et je serais curieux de voir comment est-ce que sa réception va changer.
Hors circuit quelque part, tu vois. Il y a quelque chose d'hors circuit là-dedans, hors temporel, qui est pas la pose actuelle. C'est de la pose. Il y a de la branlette, c'est pas un problème. Mais c'est pas la branlette si vite que ça, en tout cas d'aujourd'hui, qu'on voit assez régulièrement. Il y a un truc bizarre qui se passe avec ça.
Et pour revenir à cette espèce d'unanimité critique, mais qui ne le sera peut-être pas d'ailleurs tant, on va voir comment il est reçu en France. Mais ce qui est assez marrant, c'est que tu as plein de films de genre qui ont été vomis par la presse à leur sortie, dans les années 70 ou 80, et qui maintenant, via des éloges tardives ou des hommages de Tarantino ou autres, se retrouvent complètement acceptés et encensés par une presse un peu hypocrite qui, à l'époque, chiait dessus. Peut-être qu'on va peut-être avoir l'inverse avec le film là, c'est 15 ans, dessus, je vais vous dire, mais l'arnaque de 2017 quoi.
Mais je veux dire, le film a cette particularité, c'est qu'il peut donner des arguments pour les deux camps de manière assez frontale et évidente. C'est étonnant, ça, tu vois, parce que t'as tout, il y a tout dedans pour lui chier dessus, et il y a en même temps tout dedans pour dire il y a des choses intéressantes, tu vois.
C'est presque un cas d'école du débat éternel entre cinéma d'auteur, cinéma grand public, etc.
Avant de se quitter, messieurs, parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour de Ghost Story quand même, s'il y a beaucoup de choses à en dire. Vous connaissez la règle ici, une recommandation chacun pour nos auditeurs. On n'est pas obligé de rester dans le film de fantôme, mais on peut, chacun fait comme il lui plaît. Qui commence, David?
Bon, moi je vais recommander un méga méga classique, mais que peut-être les jeunes qui nous écoutent,
Casper le petit fantôme,
qui n'ont pas vu, c'est en noir et blanc, c'est un film de Mankiewicz, ça s'appelle L'aventure de Madame Muir. Et c'est un film d'amour et un film de fantôme qui est très lofi, puisque c'est un film qui doit dater de 47.
Oui, c'est ça. La fin des années 40, j'aurais dit.
Qui pour moi est d'une modernité incroyable. Enfin, il y a un sens de l'écriture, de la mise en scène, pour le coup de construction de personnages qui est assez époustouflant, et je trouve que je dis ça, peut-être tout le monde qui nous écoute a déjà vu ce film ou
pas. Je suis pas sûr.
Donc je recommande très chaudement de le découvrir.
Alex.
Moi, quand il a parlé de grands classiques que tout le monde avait déjà vu, je pensais à Ghost avec Patrick, à Ghost avec Patrick Swayze, quoi. Et Unchained Melody. Que du coup, j'ai presque envie de conseiller.
C'est un peu ça sans la poterie. Hein,
c'est ça, c'est ça. Sans
la poterie. Alors que la poterie apporte quand même vachement au film.
Et Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Ah, ouais. Whoopi Goldberg, c'est un peu Will Oldham, finalement.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, moi, je vais quand même rester dans le film de fantôme aussi. Et bizarrement, quand je pense à un film de fantôme, je pense souvent à l'Espagne. Il y a plusieurs films qui seraient potentiels. Au pif, j'aurais pu en citer d'autres, mais au pif, je vais mettre Les Autres d'Alejandro Amenábar.
Los Otros.
Petite histoire, anecdote personnelle qui n'intéressera personne, mais je le dis quand même. C'est un film que j'ai vu au moment de sa sortie en Espagne, mais du coup, je l'ai vu en version espagnole. Alors que c'est certes un film espagnol, mais quand même avec Nicole Kidman, dont on tourne en langue anglaise. C'était une expérience un peu bizarre. J'ai compris le twist quelques mois plus tard.
Yannick.
En recours, il a tout à fait raison. Il faut voir des films espagnols. D'ailleurs, il ne faudrait voir que des films espagnols. Parce que franchement, en ce moment, heureusement qu'il y a eux, sinon on se suiciderait, quoi. Et en film fantastique, puisqu'il disait Les Autres, autant citer L'Orphelinat de Bayona, qui est quand même sur le deuil aussi, et plein de choses, une permet. Moi, ça. Alors, je vais citer un truc, je l'ai pris là sur mon téléphone parce que le titre est impossible à retenir. Ça s'appelle. C'est un court-métrage, en fait, que j'avais découvert, moi, à la télé. Et quand j'ai regardé Ghost Story, ça m'a fait penser à ce truc. Mais ce truc est fait de manière comique, mais ça m'avait fait exactement penser à ça. Et c'était une espèce de fausse bande-annonce de thriller qui s'appelle The Horribly Slow Murderer with an Extremely Inefficient Weapon. Et en fait, tu vois, t'as une bande-annonce d'un tueur qui va essayer de poursuivre un mec à travers toute la planète, et ça dure pendant des plombes. C'est-à-dire que le trailer s'arrête pas, et t'as la voix off qui dit « And it's gonna come again, and again, and again. » Et voilà, donc ça, sur la temporalité du truc, tu vois, ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc regardez ce truc qui est trouvable sur Internet et qui est plutôt drôle. Voilà.
Pas mal. Très très bon. Gros niveau sur la recommandation. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julien La Technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement au public si vous voulez venir nous voir. En attendant, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.